Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 15h à Paris.
Olivier Sherman.
La junte birmane lance un appel à l'aide internationale après le puissant séisme qui a frappé l'Asie du Sud-Est ce matin. L'état d'urgence est décrété dans les 6 régions les plus affectées par ce tremblement de terre, à suivre les témoignages d'habitants de Rangoon et de Bangkok. Le chef de la défense américain Peter Hegseth en visite aux Philippines pour la première étape de sa tournée en Indo-Pacifique. Le but, resserrer les liens entre les deux pays, nous racontera notre correspondante Nemo Lecoq-James qui a suivi cette journée. Les États-Unis suspendent leur contribution financière à l'Organisation mondiale du commerce au moment où Donald Trump a entrepris de réduire les dépenses fédérales et prévoit de retirer Washington de certaines instances internationales. Les explications à suivre de Nathanaël Vitran. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser un peu l'année dernière, mais cette baisse marque à son tour le pas, tout comme en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un puissant séisme a donc frappé l'Asie du Sud-Est et notamment la Birmanie et la Thaïlande. Le tremblement de terre de 7,7 peu profond s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville birmane de Sagaing et a été suivi par une réplique de magnitude de 6,4 quelques minutes après. Il est beaucoup trop tôt pour dresser un bilan, mais déjà plusieurs morts recensés et de très nombreux blessés. Les secousses ont été très violentes. Écoutez ce témoignage recueilli par Marie Normand d'un habitant de Rangoon, Kawin.
It takes about 5 minutes in Yangon. We felt.
Ça a duré environ 5 minutes à Rangoon. On a ressenti une forte secousse. On a vu l'eau commencer à déborder des citernes, puis les citernes se renverser. À Rangoon, les dégâts ne sont pas trop graves, mais à Mandalay et dans le nord de la Birmanie, ils sont très importants. Les photos que des proches m'ont envoyées montrent que certaines parties du mur d'enceinte de la ville de Mandalay sont à terre. Le grand pont qui relie Mandalay à Sagaing s'est effondré. La capitale administrative, Naypyidaw, a aussi été durement touché. Une partie du Parlement s'est écroulée, tout comme le musée des pierres précieuses et certains bâtiments militaires.
La Birmanie a déclaré l'état d'urgence dans les 6 régions les plus affectées et a lancé un rare appel à l'aide internationale, ce qui fait craindre une catastrophe de grande ampleur. La Thaïlande aussi a donc été touchée par ce séisme. Bangkok est également en état d'urgence. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Bangkok joint par Heike Schmidt. Il prenait un café dans son appartement au 11e étage de son immeuble lorsque la terre a tremblé.
Moi, j'ai senti comme s'il y avait une fenêtre avait explosé et que tout bougeait avec un courant d'air. Alors, en fait, c'était le bâtiment qui bougeait tout seul, les portes qui basculaient. On était à 7.7 sur l'échelle de Richter et ça a duré pendant un bon 2 bonnes minutes. Et là, donc, on a décidé de descendre au rez-de-chaussée et sortir dans la rue. Ce que tout le monde a fait, en fait. C'est un immeuble qui a une trentaine d'années, qui en compte 30 étages. Il y a quelques débris sur une tour qui est à côté plus récente. Quelques débris qui sont tombés. Et puis ici, tout le monde est dehors, en fait. Tous les bureaux ont été évacués, les écoles ont été fermées, les hôpitaux sont fermés. Là, il y a un hôpital pas loin de chez moi, des infirmières et personnel soignant sont dehors. Voilà, et les sirènes, ça sonne de partout. Et de mémoire de les quelques Thaïlandais avec qui j'ai discuté, on n'a jamais vu ça à ce niveau-là de mouvement. Les gens sont très, très apeurés. Mais oui, c'est vrai que là, on se demande ce qui peut se passer. Tout peut se passer, on n'en sait rien, quoi.
L'Inde est prête à offrir toute l'assistance possible à la Birmanie et à la Thaïlande, déclaration du Premier ministre Modi. L'Union européenne est prête aussi à apporter une aide d'urgence à la Birmanie et à la Thaïlande après ces scènes déchirantes provoquées par ce séisme. C'est ce qu'a indiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Aux Philippines, aujourd'hui s'est déroulée une journée importante dans le contexte de la collaboration du pays avec son allié de longue date, les États-Unis. Les Philippines ont accueilli le chef de la défense américain, Pete Hegseth, pour la première étape de sa tournée en Indo-Pacifique. Il a rencontré ce matin le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., au palais présidentiel à Manille. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulier face à l'influence grandissante de la Chine dans la région. Les États-Unis tentent de resserrer leurs liens avec les pays d'Asie-Pacifique, dont leur allié philippin. Notre correspondante Nemo Lecoq-James a suivi cette journée.
Après seulement quelques minutes de conversation, le ton est donné.
Il y a une raison vraiment valable pour expliquer pourquoi la première étape de notre voyage est ici, pour venir vous rendre visite.
Pete Hegseth, le secrétaire de la défense américaine, a posé ses valises à Manille pour seulement 2 jours. Il repartira dès ce soir, mais avec l'objectif d'envoyer un premier message fort dans la région.
La dissuasion est nécessaire dans le monde entier, mais plus particulièrement dans cette région, dans votre pays, compte tenu des menaces des communistes chinois. Donc les amis doivent se serrer les coudes.
En plus de sa rencontre avec le président, le chef du Pentagone a aussi assisté à un entraînement conjoint des troupes philippines et américaines à Manille.
Ils sont en grande forme.
Et il a fini sa visite par une réunion avec son homologue, le chef de la défense philippine, avec quelques promesses.
En premier lieu, nous avons décidé que les États-Unis vont déployer des moyens avancés supplémentaires aux Philippines.
Ici, le chef du Pentagone fait référence à des systèmes de missiles anti-navires qui seront déployés dans quelques semaines à l'occasion de Balikatan, un grand exercice militaire annuel qui implique les forces armées des deux pays, ainsi que plusieurs milliers de soldats d'autres pays occidentaux. Nemo Lokok, James Manille, RFI.
Après 4 mois de trêve, Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth. Le premier ministre libanais dénonce une dangereuse escalade et condamne, je cite, les agressions israéliennes visant les civils et les zones résidentielles où se trouvent des écoles et des universités. C'est une nouvelle étape dans la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. Reuters a révélé hier soir que Washington avait décidé de suspendre toutes ses contributions financières à l'Organisation mondiale du commerce. Nathanaël Vitran, c'est un nouveau coup de poignard porté à une institution déjà moribonde.
Contacté par RFI, l'OMC confirme que les États-Unis sont classés depuis le mois de février dans la catégorie des pays en retard de paiement, aux côtés du Chili, d'Haïti ou encore de l'Ouganda. De son côté, le département d'État américain indique avoir reçu pour instruction de Donald Trump de mener un audit de toutes les instances et traités internationaux signés par Washington pour voir s'ils sont contraires aux intérêts américains. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'OMC, et avant elle l'institution dont elle est l'héritière, vise à promouvoir et surtout à réguler le commerce mondial, en fournissant aux États membres un espace pour régler pacifiquement leurs différends. Un système d'arbitrage qui ne peut fonctionner qu'à la seule condition que les joueurs se plient à ses règles et à ses décisions. Si ce n'était pas encore assez clair, à quelques jours de l'entrée en vigueur le 2 avril d'une nouvelle salve de droits de douane touchant tous les partenaires commerciaux des États-Unis, Donald Trump envoie le message qu'il n'en a plus l'intention et que le temps du multilatéralisme est terminé. Pour l'OMC, ce pourrait être une question de survie. La contribution des États-Unis représente à elle seule 12% de son budget annuel.
Vladimir Poutine évoque aujourd'hui l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique dans ce pays avant toute négociation sur un accord de paix. Le maître du Kremlin a par ailleurs assuré que les forces russes avaient l'initiative stratégique sur toute la ligne de front. Il y a, dit-il, des raisons qui portent à croire que nous allons les achever, a enfin affirmé Vladimir Poutine. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser l'année dernière, mais cette baisse est 3 fois moins importante qu'en 2023. Ce décrochage, annonce ce vendredi, inquiète parce que pour atteindre les objectifs que la France s'est elle-même fixés pour lutter contre le changement climatique, il faudrait au contraire accélérer la baisse des émissions. Mais comment y parvenir, Stéphanie Schuller?
Les deux secteurs les plus difficiles à décarboner en France sont les transports et le logement. Mais pour inciter la population à redoubler d'efforts, explique la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sur la chaîne TF1, ce n'est pas qu'une question de budget.
Puisque l'année dernière, on n'a pas consommé tout le budget qui était consacré à cette politique. C'est aussi une question de facilité pour aller vers ces dispositifs d'aide qui sont peut-être trop compliqués.
Simplifier et harmoniser les subventions disponibles ne suffira pourtant pas. Pour résoudre le problème, estime de son côté Anne Bringo, directrice de programme au réseau Action Climat.
Il faut aussi utiliser le levier réglementaire pour les ménages qui ont les moyens financiers de rénover leur logement ou de passer un petit véhicule électrique. Là, il faut passer vraiment à certaines formes d'obligations. Et en revanche, pour les ménages qui ont des bas revenus, qui n'ont pas accès à des travaux performants pour leur logement ou qui n'ont pas accès à l'achat d'un véhicule électrique, là, il faut des aides financières.
Lundi, un conseil de planification écologique aura lieu autour d'Emmanuel Macron. Les ONG réclament des mesures concrètes pour retrouver une trajectoire ambitieuse de baisse des émissions.
Et puis la cour d'appel de Barcelone annule la condamnation de l'ex-star du FC Barcelone, Dani Alves, à 4 ans et demi de prison pour le viol en 2022 d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. La condamnation prononcée en février 2024 a été marquée par une série de manquements et d'imprécisions. Vous écoutez RFI, il est tout juste 15h10 à Paris